Louange et remerciements au Seigneur. Nous pouvons le faire. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, nous pouvons venir à lui, tout lui dire. Il nous comprend. Il connaît une issue pour tout ce qui nous a atteint et aussi pour tout ce qui nous atteindra encore. Cela nous rapproche de lui et cela aide dans le processus de purification et de sanctification, de sorte qu'à la fin, il ne reste plus rien de nous tous, mais que Jésus-Christ soit glorifié et préservé en tous. Le Seigneur a les moyens de nous humilier tous, de nous dépouiller tous. Si nous n'avons pas besoin de le faire, il fera en sorte que cela arrive. En effet, il n'a pas été épargné à chaque enfant de Dieu jusqu'à aujourd'hui de passer par toutes sortes de situations, qu'il soit jeune ou vieux, grand ou petit, que ce soit un frère ou une sœur, tout homme. Si nous le demandions ce soir, et si chacun pouvait mettre la main sur son cœur, nous devrions tous témoigner ou admettre que nous avons tous quelque chose qui nous affecte, qui nous fait souffrir. Des choses que nous pouvons amener devant la face de Dieu en sachant qu'il nous aidera et nous fera du bien à tous. Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui puisse passer sans difficulté, qui passe sans difficulté, marche sans difficulté, sans épreuve et sans toutes ces choses que tous les enfants de Dieu ont traversées. Cela n'est pas possible. Ça va peut-être bien pendant quelques jours, pendant quelques semaines, pendant quelques mois, mais à un moment ou à un autre, des épreuves que nous aurons à surmonter surviennent sur notre vie. Des choses qui ne nous sont peut-être pas agréables du tout. Mais nous savons une chose. Nous savons vers qui nous pouvons aller. Nous savons en qui nous croyons. Notre espérance est ancrée uniquement en lui. Lorsque des hommes non-croyants sont touchés par une situation quelconque, alors ces personnes incroyantes sont désemparées. Elles ne savent pas quoi faire ou comment ça va continuer. Mais nous ne sommes pas désemparés. Il est notre conseil, notre force. Il est tout ce dont nous avons besoin. Mais par le silence, nous serons aidés. Il y a des choses sur lesquelles nous pouvons parler ensemble. Il y a des choses sur lesquelles nous ne pouvons parler qu'avec Dieu. Et heureux les hommes qui peuvent apprendre à parler, à ne parler de tout qu'avec Dieu. Dieu oublie, mais les hommes n'oublient pas. Dieu oublie et Dieu pardonne. Mais chez les hommes, il y a toujours des difficultés parce que nous sommes encore parfois remplis de la nature humaine au lieu d'être remplis de la nature divine. Nous avons entendu des précieuses pensées tirées de la parole de Dieu. Et quelle que soit la personne qui les lit ici devant, nous sommes subjugués. Et nous nous réjouissons que le Seigneur nous parle. J'ai entendu que vous avez eu des réunions bénies le dimanche dernier. Cela nous réjouit beaucoup. Chaque fois que le Seigneur bénit d'une manière particulière, nous nous réjouissons de tout cœur. Nous nous sommes aussi réjouis à Zurich. Le Seigneur était avec nous et nous a bénis. Quelle qu'en soit la raison, j'aime les bien-aimés qui sont à Zurich. Et j'espère, je crois, que le Seigneur, là aussi, arrivera à ce qui lui revient de plein droit et préparera les siens qui viennent de près et de loin pour s'y rassembler et écouter sa parole et prendre à cœur ce qui leur est dit. Je regarde encore ici à la dernière prophétie que le Seigneur nous a donnée. Elle me rappelle simplement, parce que cela a été lu, elle me rappelle que nous devons nous accrocher à la parole de vie. Et il est dit ici dans cette prophétie, « Mon peuple, oui, en vérité, il est grand temps. Il est grand temps. Ce sont les derniers temps. Et vous avez écouté ma parole. Vous avez entendu ma vérité. Nous n'avons pas écouté une parole quelconque, mais nous avons écouté la parole du Dieu Tout-Puissant. Une parole puissante. Une parole pleine de vie. Dieu lui-même est présent dans sa parole. Sa parole est esprit et vie. Peu importe où sa parole est écoutée et reçue dans la foi, là, il se passe quelque chose. Cela me rappelle la dernière émission radio, ou l'avant-dernière, où nous avons brièvement évoqué la guérison. Et que vous le croyez ou non, des personnes ont expérimenté leur guérison pendant qu'ils écoutaient l'émission radio. Nous l'avons peut-être écouté assez souvent, la parole, de sorte que cela ne nous touche plus autant que des personnes qui écoutent de manière inopinée ou inattendue et qui remarquent que maintenant, ils sont concernés, que maintenant, Dieu les interpelle et directement la chose se produit. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour les lettres qui, aussi de cette manière, laissent des traces de bénédiction de sorte que la parole ne retourne pas à vide. Ces jours-ci, j'ai encore écouté quelques prédications de Frère Branham. Je cherche quelque chose et je viens de le trouver. Mais il a dit textuellement, il dit que la guérison divine est comme un hameçon qui est jeté. Comme un hameçon qui est jeté. Il dit que si seulement la guérison divine est annoncée et proclamée, alors l'hameçon a manqué son but. Mais si le poisson a mordu l'hameçon et qu'ensuite le message de Dieu est apporté, la parole, alors il a accompli son sens et son but. Et nous voulons que le Seigneur revienne, atteigne ce qui lui revient de plein droit et qu'il manifeste sa présence. Et nous croyons en sa parole. Nous l'avons lu ici récemment et je l'ai lu dimanche dernier à Zurich de l'épître de Jacques. Que la parole qui vient d'en haut est pure, pacifique, sans doute, Jacques 3, 17. Et nous lisons dans 1 Corinthiens, dans les derniers, chapitre 1, pardon, dans les derniers versets, que Christ a été fait pour nous sagesse, justice, rédemption. Oui, nous pouvons le dire. Il a été fait pour nous tout. 1 Corinthiens 1, verset 31. Et s'il est notre sagesse, alors il n'y a que de l'intégrité, que de la vérité, que de la foi. Tout ce dont nous avons besoin, nous l'avons en lui. Et ici, il nous a été dit par révélation, « Et vous avez écouté ma parole. » C'est quelque chose de grand. Dieu n'avait pas besoin de nous dire plus que ça. Nous n'avons pas écouté la parole des hommes, mais nous avons écouté la parole de Dieu. La parole des hommes est une interprétation et a pour conséquence la mort. Mais la parole de Dieu est la vie. Et celui qui la reçoit, il est passé de la mort à la vie. Et il est dit encore ici, dans cette prophétie, « Vous avez entendu ma parole. » Quelle confirmation ! Jésus dit, « Ma parole est la vérité. » Et lorsque nous avons reçu cette vérité de la parole divine, qui est vie, alors deux choses se sont produites. Un, nous-mêmes, nous sommes passés de la mort à la vie. Et deux, et nous sommes passés de tout mensonge à la vérité, de sorte que nous pouvons être sanctifiés dans la vérité. Et il est dit ensuite dans la prophétie, c'est une vérité glorieuse. Oui, ce n'est pas seulement une vérité que l'on entend en passant, et que l'on met de côté, mais c'est une vérité glorieuse. C'est ainsi que nous l'avons entendu et que nous pouvons le lire. C'est une vérité glorieuse, une précieuse parole de Dieu qui nous a été adressée en ce temps. Et ensuite vient directement l'avertissement. Et l'avertissement est là toujours la preuve que Dieu parle du discours de Dieu. Puis, tout de suite l'avertissement, mais malheur à celui qui passe à côté de ma parole avec indifférence. Malheur à celui qui passe à côté de ma parole avec indifférence. Si nous voyons le Seigneur de gloire ici devant nous, remuant ses lèvres, et que nous entendions sa parole, alors une frayeur nous traverserait tous, ou traverserait tous nos membres, et nous trouverions le chemin jusqu'au pied du Seigneur. Et nous dirions, Seigneur, nous ne sommes pas dignes que tu nous parles. Nous ne sommes pas dignes que tu viennes sous notre toit. Nous ne sommes pas dignes que tu nous aies regardés en grâce. Ici, voici l'avertissement. Malheur à celui qui passe à côté de ma parole avec indifférence. Nous savons que la parole de Dieu subsiste même lorsque le ciel et la terre auront disparu. Mais la parole de Dieu demeurera toujours. Et aussi ceux qui l'ont reçue en eux, pour qui elle est devenue une puissance divine. Paul dit dans 1 Corinthiens 1, verset 18, « Pour les incrédules, ce que nous prêchons est une folie. Mais pour vous qui croyez, c'est une puissance de Dieu. C'est une parole glorieuse, une parole d'enseignement, de révélation, de réprimande, une parole de vie, une glorieuse parole. » Il n'y a pas eu une époque où la parole de Dieu a été proclamée avec une telle gloire, avec une telle clarté que dans notre temps. Malheur à celui qui passe à côté de ma parole avec indifférence. Frères et sœurs, je ne le sais pas, mais lorsqu'une telle exhortation, avertissement est placé par l'Esprit de Dieu au milieu de l'Assemblée, nous devrions au moins nous poser la question, « Seigneur, suis-je passé à côté de ta glorieuse parole, à côté de ta parole de vie et de vérité, avec indifférence sur un point quelconque ?» Ce n'est pas seulement un point qui a été abordé, de sorte que nous puissions dire, lorsque nous écoutons la parole sur la promesse qui dit, « Voici, je vous enverrai le prophète Élie. » Aucun d'entre nous n'y passerait indifférent. Mais la parole de Dieu comporte en tout 66 livres et de nombreux chapitres et versets d'une couverture à l'autre, de sorte qu'en ce lieu nous puissions écouter avec soin tout ce que la parole de Dieu a à nous dire. Car les saints hommes ont parlé de la part de parler, poussé par le Saint-Esprit. Et ils ont parlé à ceux qui sont tout aussi bien disposés à recevoir en eux ce que dit le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne parle pas à notre intelligence, mais l'Esprit de Dieu nous est donné pour que la parole nous soit ouverte et révélée. Et ensuite, il est dit dans la prophétie, voici encore de vêtements, habillez-vous. Je pense ici à la prophétie qui avait été donnée à Karsof. C'est un lieu. Je ne sais pas combien de personnes y avaient été à l'époque. Il y a des années, lorsque la prophétie a été donnée, directement à l'entrée, ou alors, je ne sais pas trop, ma mémoire n'est pas très bonne, mais en tout cas, il était question de revêtir les vêtements que le Seigneur a mis à notre disposition. Et ici, nous comparons cette prophétie avec les mots. Son épouse s'est préparée et lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant d'Apocalypse chapitre 19 verset 7. Afin que nous ne soyons pas trouvés nus le jour où le Seigneur reviendra. Ici, il y a encore des vêtements. Et vous dites, peut-être, où sont-ils? Ils sont là. Ils sont là pour que nous, comme le peuple de Dieu, comme les âmes épouses, nous soyons parés de vêtements de justice qui nous revient par grâce. Combien un homme terrestre doit-il se vêtir? Comme un homme terrestre doit se vêtir, il doit aussi parfois mettre la main à la pâte. Le vêtement ne vole pas simplement au-dessus de sa tête, mais il faut aussi parfois bouger quelque chose. Et Dieu veut que dans la foi, nous prenions le vêtement qu'il met à notre disposition et que nous nous habillons et que nous ne soyons pas nus. Tout cela est lié. Celui qui lit ici très lentement et s'arrête sur chaque phrase, chaque mot, peut tirer beaucoup de choses. Parfois, il se peut que nous entendions ici une prophétie et que nous rentrions chez nous et que nous oublions, comme le dit l'Écriture dans Jacques 1, verset 23, comme quelqu'un qui s'est regardé dans un miroir et qui plus tard a oublié à quoi il ressemblait et qui continue à marcher. Il ne doit pas en être ainsi. Quand le Seigneur nous parle et nous sommes reconnaissants qu'il nous parle, ce serait grave s'il s'arrêtait de parler. Alors, nous n'aurions plus besoin de venir ici. Nous pourrions rester à la maison. Mais remercié soit le Seigneur qu'il parle. Il est dit dans la prophétie, « Malheur à celui qui passe à côté de ma parole avec indifférence. Voici encore des vêtements. Habillez-vous, parez-vous, préparez-vous. » C'est un appel, un commandement pour nous tous de revêtir, de se parer des vêtements de justice, des vêtements du salut qui reviennent à l'épouse. Et il est véritablement écrit, et son épouse s'est préparée. Apocalypse 17, 19, verset 7. Et ici, il est dit dans la prophétie, préparez-vous. Et cela nous rappelle à la parole, préparez-vous à avancer hardiment et à revêtir l'armure complète de Dieu, selon Éphésiens chapitre 6. Et cela nous rappelle à la parole, et celles qui étaient prêtes entrèrent, selon Matthieu chapitre 25, verset 10. Et quand il est écrit ici, ou quand il est dit qu'il est grand temps, ce sont les derniers temps. Combien de fois avons-nous entendu cela? Et cela pourrait tout aussi bien devenir une habitude pour nous sans que cela ne nous submerge, ne parle à nos cœurs comme cela devrait être le cas. Car une tempête passera, dit la prophétie. Ça fait toujours aussi partie de la chose. Et vous savez que dans les temps anciens, quand on avait moissonné, le vent travaillait et prenait soin à ce que le blé soit séparé des livrets. Et on préférerait avoir une tempête qu'un léger souffle de vent, parce que l'ivraie était très proche du blé. Le Seigneur ne tient pas du tout à ce que les choses restent proches l'une des autres. Il fera venir une véritable tempête et l'ivraie sera emportée à tous les vents. Comme il est dit dans l'Écriture, mais le blé sera recueilli dans son grenier. Et si ici cette annonce est faite dans tout le contexte de la glorieuse vérité que nous avons écoutée avec la parole que nous avons entendue et avec le revêtement de l'habit et que nous ne devons pas passer, oui, à côté de la parole proclamée avec indifférence, et que nous devons nous parer, nous préparer, car une tempête passera. C'est nécessaire. Dieu l'a annoncé depuis longtemps, et il a répété, et cela arrivera. Mais ensuite, il passe à l'amour dont nous avons besoin, et il dit ensuite, « Oh, ne résistez pas à mon esprit, mon peuple, car le temps viendra où vous aurez besoin de mon amour. C'est pourquoi préparez-vous. Oh, ne résistez pas à mon esprit, mon peuple. Les incrédules n'arrête pas l'action de Dieu. Les incrédules sont d'une autre nature. Ils ont d'autres tâches, d'autres intérêts. Ici, dans la maison de Dieu, un chemin doit être frayé au Seigneur. Ici, toute résistance doit être mise de côté, afin que la gloire du Seigneur puisse se manifester par les siens, qui, parmi les siens, et par les siens, qui se consacrent entièrement à lui et peuvent être utilisés par le Saint-Esprit. Je ne savais pas quelle était la raison et le lien entre les choses, mais je savais très bien que lorsque l'interruption est arrivée dans la salle, il y avait une quelconque résistance. Et le Seigneur connaît mon cœur. Nous n'en savions rien. Ou peut-être était-ce si silencieux que je ne l'ai pas entendu ici devant. Oh, ne résistez pas à mon esprit. Et vous pouvez vous souvenir de ce que j'ai dit ensuite. Je l'ai relu aujourd'hui sans l'avoir su entre-temps. Mais dans mon cœur, j'ai su tout de suite. Et c'était, lève-toi et dis-leur afin que toute résistance soit ôtée. Cela pouvait même arriver, oui. Vous demandez en quoi consiste une résistance. Vous savez, rien que d'y penser a toujours pensé à ce que c'est toujours les mêmes qui parlent. C'est déjà une résistance. Si l'un d'entre nous savait à quelle vitesse l'Esprit de Dieu se retire, nous enlèverions nos chaussures et viendrons à ce lieu avec une sainte crainte, en soumettant nos pensées et nos sens au Seigneur et en disant, « Me voici, prends-moi comme je suis. » Même une pensée qui n'est pas selon la volonté de Dieu peut attrister le Saint-Esprit de Dieu et peut être un obstacle. Nous ne sommes pas ici pour demander pourquoi. Les questions auxquelles nous n'obtiendrons pas de réponse, nous n'avons pas besoin de les poser. Ce qui est important, c'est que chacun suive intérieurement de tout cœur ce que l'Esprit de Dieu fait. Alors tout est possible. Il peut même arriver que ce ne soit pas toujours les mêmes, que ce ne soit pas les mêmes, que ce soit d'autres qui soient saisis par l'Esprit de Dieu. Il est même arrivé à Frère Branham de faire descendre de la plateforme des prédicateurs qui étaient assis derrière lui. Il a dit, j'ai suffisamment de diables devant moi et j'en ai pas besoin derrière moi. Asseyez-vous où vous voulez. Ce n'est pas si simple. Si nous sommes ici, bien sûr, dans le terrestre, nous sommes là. Nous ne voyons pas ce qui se passe d'autre ici. Mais dans un service divin doit arriver à ce qui lui revient de plein droit. Et nous devons pouvoir mettre de l'ordre dans nos pensées et les subordonner ou les mettre au-dessus des pensées de Dieu. Et alors le Seigneur aura le champ libre pour se manifester de manière puissante. Nous le voyons dans l'Écriture, dans les Saintes Écritures, et nous pouvons le lire, que le Seigneur a distribué certains dons, et que ces dons et ces appels sont irrévocables, et il ne se trompe pas, quoi qu'il fasse, il le fait pour sa gloire et son honneur, et nous devrions nous réjouir de tout cœur et de toute notre âme. Personne ne peut dire, oui, je ne suis pas prophète, qu'est-ce que j'ai encore à faire? Chacun a sa place dans l'Église du Seigneur. Ce qui est important, c'est qu'en ce lieu, nous soyons ensemble dans l'amour de Dieu, sous la discipline et la direction du Saint-Esprit, afin que Dieu puisse y trouver son compte. Et il est encore dit dans la prophétie, il ne s'agit vraiment pas d'une haute connaissance. Ce n'est pas la sagesse des hommes, ce n'est pas l'intelligence, mais seulement ma puissance dans laquelle vous devez marcher et dans laquelle vous devez marcher et dans laquelle vous subsisterez. Ce n'est pas notre capacité, ce n'est pas ce que nous avons imaginé ou réfléchi. Nous réfléchissons ainsi à côté du but. Nous devons apprendre, ô Seigneur, de ta plénitude, nous puisons grâce sur grâce chaque jour. Nous dépendons de la grâce de Dieu. Chaque pas de notre vie, chaque souffle que nous prenons, nous devrions nous souvenir de la grâce de Dieu. Si le Seigneur n'avait pas révélé sa grâce dans notre vie, où serions-nous aujourd'hui? Emmêlés dans des choses quelconques, quelle que soit leur nature. Seul celui qui a bénéficié de la grâce de Dieu peut se soumettre au Seigneur. Et c'est à celui-là qu'il fait connaître ses voies, qu'il fait participer à son action et à qui il ouvre le chemin là où il n'y a pas de chemin. Chez notre Dieu, tout est possible. Ici, dans la parole qui a été lue dans Philippiens chapitre 2, verset 1, si donc il y a une réprimande prononcée en Christ, s'il y a un encouragement plein d'amour, s'il y a une communion d'esprit, s'il y a une compassion et une miséricorde profonde, verset 2, rendez ainsi ma joie parfaite en ayant les mêmes sentiments, en entretenant le même amour et en tendant d'un commun accord vers le même but. Lorsque le Seigneur Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il s'est tenu au milieu de ses disciples, il a dit, la paix soit avec vous. Mais après, il leur réprimanda de leur incrédulité, oui, et la dureté de leur cœur, selon Marc 16, 14. Il les a repris, il les a interpellés, leur a indiqué ce qui devait changer en sa présence. Et seul son esprit peut révéler la nature de Jésus-Christ à chacun d'entre nous. Tous nos efforts ne servent à rien. Mais il dit ici, Philippiens chapitre 2, verset 1, « Si donc il y a une réprimande prononcée en Christ, s'il y a un encouragement plein d'amour, s'il y a une communion d'esprit, s'il y a une compassion, une miséricorde profonde, rendez ma joie parfaite ayant le même sentiment. » Cet homme de Dieu, Paul, avait un cœur, à cœur, de présenter au Seigneur une épouse pure et sainte. Des personnes intimement unies ensemble et unies au Seigneur dans la communion d'esprit. Notre communion en ces lieux n'est pas une communion selon la même nature terrestre, mais une communion selon la même nature divine. Afin que tous ceux qui viennent ici puissent être animés des mêmes sentiments ou des mêmes dispositions en Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit ici dans ce passage. Que pouvons-nous dire à propos de ces paroles? Nous ne pouvons que dire, Seigneur, aide-nous. Aie pitié de nous et fais de nous des hommes capables de marcher dans tes voies, des hommes qui manifestent ta nature, des hommes en qui tu parviens à ce qui te revient de droit. Et ensuite, il est dit ici, la parole que nous avons déjà entendue avec insistance, verset 15, afin que vous vous montriez irréprochables et purs comme des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération ou d'une humanité perverse et pervertie, Philippiens 2, 15. Oui, si Paul parlait déjà à l'époque d'une humanité ou d'une génération pervertie et perverse, que dirait-il aujourd'hui? Mais Dieu nous a accordé la grâce. Peut-être utiliserait-il les mêmes mots, car rien n'a changé. L'Esprit de Dieu savait toutes ces choses, et sa parole n'est pas liée au temps. Elle est toujours valable pour les croyants de tout temps, mais également pour les non-croyants de tout temps. Mais c'est une génération pervertie et perverse. Même le Seigneur Jésus l'a dit à l'époque, et a condamné la génération de cette époque et l'a présentée comme pervertie et perverse. Bien sûr, ils avaient tous leur forme, mais ils ne comprenaient pas ce que Dieu avait fait en ce temps. Et c'est de cela qu'il s'agit pour l'apôtre. Philippiens 2, verset 16. Restez fermement attachés à la parole de vie pour ma gloire au jour de Christ. Car c'est alors que je n'aurai pas couru en vain, ni travaillé en vain. Si quelqu'un parle d'une récompense qui nous attend là-bas, tout cela ne touche pas mon cœur. Je veux juste être là avec tous ceux qui ont écouté la parole de Dieu, du Seigneur. Je n'ai pas besoin de récompense. Si le Seigneur la donne, alors qu'elle soit. Mais je ne veux qu'une chose. Ma récompense, que ce soit tous ceux qui ont écouté la parole de Dieu en ce temps. Je ne souhaite rien d'autre. Je souhaite seulement que nous tous qui avons trouvé grâce devant la face de Dieu en ce temps, qui pouvons croire la vérité, qui pouvons distinguer entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge, que nous ne mélangions rien, mais que nous ayons une séparation claire, car Dieu a fait la séparation dès le début. Et il est écrit, et il sépara la lumière des ténèbres, Genèse 1, 4. Il y avait un nom pour les ténèbres, un nom pour la lumière. Et il en est ainsi jusqu'à aujourd'hui. Et personne ne peut le changer. Le même Esprit de Dieu qui a parlé par tous les serviteurs et les prophètes jusque dans notre temps est en nous, afin que nous ayons en nous aussi la même distinction, entre la lumière et les ténèbres, entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Combien de fois nous l'avons entendu? Les ennemis ne peuvent pas être séduits. Et le seul critère auquel nous pouvons nous référer est la sainte parole de Dieu. Celui qui demeure dans la parole de Dieu demeure en lui. Et lui en nous. Nous pouvons demander ce que nous voulons et cela nous sera accordé. Encore très brièvement sur les questions qui ont été posées ici. La première question, Romains chapitre 8, verset 1 et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il est dit ici, dans d'autres passages, c'est la question, il est parlé de l'expression « en Christ ». Qu'est-ce que cela signifie et comment entre-t-on en Christ? Dans Romains chapitre 8, nous lisons, « Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, en Christ Jésus. » Et ensuite, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il y aura certainement une parole similaire. Peut-être nous pouvons l'ouvrir et le lire. Il y est écrit, « Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Oui, la question ici est, comment entre-t-on en Christ? Il est effectivement très difficile de formuler quelque chose ici, comme réponse, naturellement. Mais une chose est certaine. Christ prend place, fait son habitation dans nos cœurs par la foi. C'est une chose. Si il nous a pardonné nos fautes et nos péchés, il est écrit que je viendrai à lui, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Et il est écrit, celui qui entend ma parole et croit en lui, ou qu'il reçoit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il y a suffisamment de passages qui parlent de ce que nous recevions Christ dans nos cœurs et qu'il habite ou qu'il fasse sa demeure dans notre cœur par la foi. Lorsque l'on utilise l'expression en Christ, il est symbolisé ou mis en évidence l'action de Dieu qui a lieu ou se passe en nous. C'est toujours dans le contexte. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 12, où il est dit que nous avons tous été baptisés dans un seul corps par un seul esprit. D'une part, Christ est en nous, d'autre part, nous devons être en lui. Il vient faire sa demeure dans notre cœur par la foi. S'il a manifesté la repentance par l'esprit et par la parole, s'il nous a accordé le pardon par le sang, et si nous avons la certitude d'être des pardonnés devant la face de Dieu, alors il fait sa demeure dans notre vie. que nous l'appelions, que nous appelions cela conversion, que nous l'appelions cela nouvelle naissance, peu importe, tout cela n'a aucune importance. L'important, c'est que quelque chose de nouveau se soit produit en nous. Mais alors, comme nous l'avons très souvent entendu, nous devenons des vases et des récipients. Mais ces vases doivent ensuite être mis au service. Et le sanctuaire a consacré les vases pour qu'ils puissent être introduits dans le service. Nous savons que dans l'Ancien Testament, il y avait suffisamment de vases qui devaient tous remplis des fonctions dans le temple du Seigneur. Mais les vases ont été consacrés au Seigneur et ensuite, que ce soit par l'onction, nous avons le sang qui a été appliqué partout où cela devait l'être et l'huile aussi. On devait sanctifier, on devait oindre de sorte que tous pouvaient être mis, introduits au service du Seigneur. Nous tous qui sommes en ce lieu, et je crois qu'il n'y a aucun ici présent, nous tous, en ce lieu, parmi nous tous, je crois que le Seigneur Jésus a fait sa demeure, son habitation dans nos cœurs. Je peux quand même le dire, que nous tous qui sommes réunis ici, sous le son, la proclamation de la parole, nous pouvons dire que nous avons reçu Jésus-Christ selon la parole du Seigneur. Mais, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés selon le sang ou la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu, selon 1 Jean chapitre 12. Ce sont des fils et des filles de Dieu. Mais le Seigneur veut maintenant atteindre son but avec nous en tant que fils et filles. Il veut nous parler et nous utiliser pour le service qu'il a ordonné, qu'il a prescrit. Il y a donc justement ces deux choses. L'une est Christ en nous, l'autre c'est nous en lui. Et la Bible témoigne des deux choses. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et la Bible dit tout autant, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. Et nous pouvons énumérer beaucoup de passages bibliques qui éclairent ces deux points, d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas grand-chose à dire à ce sujet. Une chose est sûre, c'est qu'il y a en nous tous un profond désir que le Seigneur puisse venir à ce qui lui revient de plein droit. Et que nous, qui sommes devenus croyants, puissions être bénis par lui de telle manière que les autres le voient. Qu'ils puissent simplement dire, ce sont des bénis de Dieu. Que ce ne soit pas seulement des gens qui parlent de la bénédiction que d'autres ont reçue il y a 4 ou 5 ans, ou il y a 2000 ans, au début de cette génération, mais que l'on puisse dire, ça, ce sont les bénis de Dieu. Amen. On le voit sur eux. Il y a autour d'eux une atmosphère dans laquelle on se sent bien. L'Esprit de Dieu les entoure. Ils sont en Christ, lui en eux, eux en lui. Et je crois que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque part, peut-être dans Jean 14. En ce jour-là, ils reconnaîtront que je suis en toi, que tu es en moi et que je suis en eux, afin que nous soyons tous un. Cette unité divine parfaite doit arriver, doit se manifester. Et elle ne peut se réaliser que là où l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, vient à ce qui lui revient de plein droit. La deuxième question dit, selon Paul, Romains 8, verset 9 et 14. Romains 8, verset 9, vous, au contraire, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit. Si vraiment l'Esprit de Dieu habite en vous, et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas non plus. Et ensuite, le verset 14, Romains 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oui, tout cela va dans la même direction, dans le même sens. Et la question continue à savoir si cela a un rapport avec Actes 19, verset 6. Et dans Actes 19, il est dit, c'est sûrement le verset 6, là où ces gens ont reçu le Saint-Esprit et ont ensuite loué le Seigneur. Oui, c'est le verset 6. Actes des Apôtres 19, verset 6. Et alors, Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Oui, tout cela est lié ensemble. Chaque passage biblique qui parle de ce sujet témoigne le même fait, la même évidence, à savoir que le surnaturel se produit là où l'esprit agit de manière surnaturelle. Et cette action surnaturelle de l'Esprit de Dieu se manifeste de diverses manières dans l'Église, comme l'a déjà prédit le prophète Joël. Ils auront des visions, des songes, recevront des révélations en songe, prophétiseront et ainsi de suite, comme l'a déjà prédit le prophète Joël. Ce qui est important, c'est de ne pas dire, Seigneur, donne-moi maintenant les choses que tu as dites. Non, ce n'est pas possible. On peut simplement dire, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit, de ton esprit. Ce qui vient ensuite, ce qui déborde, par quoi Dieu se glorifie, de quelle manière cela vient et se déroule ensuite, c'est l'affaire de Dieu. Nous avons appris depuis longtemps que nous ne nous fixons sur rien, mais que nous laissons l'Esprit de Dieu agir comme il lui plaît. Mais nous ne devons en aucun cas penser que la parole de Dieu a été rendue sans force. Au contraire, Jésus lui-même a dit dans l'Ancien Testament, « Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu l'accomplir. » Matthieu 5, 17. « Il n'y a pas de proclamation de la parole de Dieu qui abolisse la parole de Dieu, mais seulement une prédication qui mène à l'accomplissement de la parole de Dieu. » Amen. Nous devons le retenir, nous devons le savoir, sinon nous en venons à dire ce n'est plus valable ici. Puis à la fin, nous disons, comme nous l'avons entendu le samedi, que reste-t-il alors à croire? Nous croyons tout, et le même Dieu qui a révélé, qui a éveillé en nous le désir, le même Dieu l'assouvira, nous abreuvera de délices comme d'un fleuve. Mais, frères et sœurs, chers frères et sœurs, veillons sur une chose. Les choses qui nous accablent tant que nous puissions les déposer à la croix, au pied de Jésus, et que nous disions, Seigneur, nous voici fatigués et chargés. Nous t'apportons tout ce que nous avons. Et nous sommes convaincu qu'il libérera, qu'il aidera, qu'il relèvera et qu'il bénira. Et nous pourrons partir d'ici comme des bénis du Seigneur. Il ne s'agit pas forcément de qualifier une certaine expérience d'une telle ou d'une telle manière, ou de dire que telle ou telle chose doit être, mais tel que Dieu conduit, c'est comme ça que cela doit être. Et ce qu'il donne, nous en sommes reconnaissants. Il a dit dans l'Ancien Testament, « Mon peuple sera dans l'abondance de mes dons. » Et dans le Nouveau Testament, il dit, « De sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. » Puisse ces paroles nous aller droit au cœur et que jamais en ce lieu, nous ne puissions... que cela aille à nos cœurs et que nous puissions... Et vous savez qu'il y a longtemps que nous ne cherchons pas à prêcher ici avec quelque violence que ce soit, mais que nous laissons entre les mains de Dieu tout, afin que sa parole accomplisse en chacun de nous ce pourquoi il a envoyé. Je nous conseillerais néanmoins, en particulier par rapport à la dernière prophétie, de la relire en priant. Il a été dit « Seigneur » en priant, en disant « Seigneur, sur quoi as-tu mis ton doigt dans ma vie ?» pendant ce discours que j'ai devant moi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Quel point tu veux aborder, tu veux traiter qui me concerne, qui nous concerne? Où est-ce que je me tiens? Où est-ce que je marche? Où est-ce que je me trouve? Seigneur, ne me laisse pas dans l'obscurité, mais donne-moi la clarté sur mon chemin, sur ma position devant ta sainte face. Aie pitié de moi à cause de ton saint nom. Et le Seigneur le fera. Mais si nous faisons, comme le frère Schmitt l'a mentionné samedi, dans la parole d'introduction, que les choses sont alors mises de côté, et peut-être une certaine partie de la prophétie devait indiquer cela, le sérieux, lorsque nous écoutons la parole de Dieu en ce lieu, que nous ne nous débarrassions pas seulement des choses et que nous nous en allions, mais que nous disions, Seigneur, tu as parlé ici et voici, nous nous abandonnons à toi et nous voulons savoir à quoi nous en tenir. Je pourrais parfois crier très fort et dire, Seigneur, mon Dieu, je veux savoir comment je me tiens devant ta face. Oui, où je suis. Et nous savons que Dieu entend. Nous n'avons pas besoin de crier comme des prêtres balous. Nous pouvons parler à notre Dieu du fond de notre cœur et il nous écoutera. Il nous regardera, il regardera nous vers le bas avec grâce. Il nous aidera à ce que toutes les choses qui nous accablent puissent être simplement déposées. Que nous nous élevions comme des aigles, que nous courions, que nous ne nous fatiguions pas, et que nous disions, Seigneur, nous te remercions pour toutes tes paroles, pour ta parole puissante, pour ta parole de vie, pour toutes les réprimandes, les révélations, pour le vêtement que tu as préparé, pour tout cela, et pour la peine que tu te donnes avec nous pendant ce temps. Nous avons en ce lieu particulièrement beaucoup de raisons et de motifs de remercier le Seigneur du fond de cœur, et de nous incliner devant le Dieu Saint qui nous a jugés dignes de venir dans sa présence. S'il s'agissait de savoir qui est digne, nous pourrions tous nous retirer, mais Dieu dans sa grâce nous voit au travers de Golgotha. Il nous voit par le sang de réconciliation qui parle pour nous tous, qui a coulé pour nous, qui nous a purifiés et lavés, comme le disent les Saintes Écritures. Vous n'avez pas été racheté avec l'argent ou l'or périssable, mais vous avez été racheté par le sang précieux de l'agneau innocent selon 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Puisse le Seigneur nous aider tous à savoir que non seulement il est en nous, mais aussi que nous pouvons être en lui, en Christ, où tout est devenu nouveau, où non seulement la faute et le péché sont pardonnés, mais là où tout est devenu nouveau, une atmosphère du ciel peut se manifester en nous et par nous. Ne nous regardons pas nous-mêmes. Prenons aujourd'hui Dieu à sa parole et commençons à le remercier en disant, Seigneur, tu as déjà donné le pouvoir et tu as aussi donné le faire par grâce. Car s'il n'est pas donné le vouloir, il ne pouvait pas être donné le faire, mais parce qu'il a mis le vouloir en nous, il est obligé. On ne peut pas dire cela, on ne peut pas dire que Dieu est obligé, mais Dieu est aussi lié à sa parole. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est lié à sa parole. Le vouloir qu'il a donné entraînera le faire. Amen. Les deux sont liés. Amen. Comme il est l'alpha et l'oméga, il a fait la première chose et il le fera la suivante. Il ne peut pas s'arrêter entre deux choses. C'est pourquoi nous avons bon courage ce soir, sachant qu'il le fera le jour de la venue, de sa venue glorieuse. Loué soit son saint nom. Amen. Nous voulons prier. Père Céleste, nous te remercions de tout cœur pour ta présence que nous avons ressentie et expérimentée. Ta parole, qu'il s'agisse de la guérison ou du salut, du pardon, de la délivrance, ta parole ne peut pas être brisée. Il est écrit que les Écritures ne peuvent pas être brisées. Chaque parole de Dieu est une vérité absolue. Nous te remercions, ô Seigneur, d'avoir opéré par la foi dans nos cœurs pour le salut, pour la guérison et pour la délivrance. Et avec nous, Seigneur, tu veux bénir tous ceux qui ont tourné leur regard vers toi ce soir, qui ont mis leur confiance Et dans le fait que nous nous sommes souvenus de dans nos prières, ô Dieu, que nous nous souvenions d'eux ou non, tu les t'es souvenu d'eux, tu les as vus, tu les as exaucés, tu les as répondu, ici comme partout, tu as étendu ton bras sur toute la terre, et tu t'es montré puissant ce soir à cause de ton nom, parce que ton peuple en ce lieu a donné foi à ton enseignement ce soir. C'est pourquoi tu nous as honorés de ta présence. Alléluia. Ton nom merveilleux est saint. Alléluia. Gloire à toi, le Dieu vivant, en la présence duquel nous nous tenons. Alléluia. Alléluia à ton nom. Alléluia. À toi. Amen. Amen.